Alors, David Fortin, une nouvelle étude qui pourrait confirmer en partie l'origine commune de toutes les langues humaines à partir de se cogner un orteil sur un coin de table.
Oui, exactement. Saviez-vous, Pénélope, qu'il y a plus de 7000 langues et dialectes dans le monde? Moi, j'en reviens pas. Là, quand j'ai trouvé cette statistique-là, ça m'a ébahi. La vraie question, c'est est-ce que certaines émotions démontrent des traits linguistiques communs à travers tous les langages qui nous permettraient, en fait, de confirmer l'hypothèse en vogue à l'effet que toutes les langues autour de la planète découlent d'une langue commune, d'une même langue commune. Donc, vous savez, il existe énormément de théories sur l'apparition des langages. L'apparition des langages, évidemment, l'étude de ce domaine-là est compliquée par le fait qu'on n'a pas d'archives, en ce sens qu'on ne retrouvera jamais d'enregistrement des premiers hommes. On n'a pas de données sur lesquelles on peut travailler, donc on doit faire beaucoup d'inférences. Puis aujourd'hui, beaucoup de scientifiques vont s'accorder sur le fait qu'il y a eu clairement un basculement avec l'Homo sapiens. C'est-à-dire que l'Homo sapiens a développé ce qu'on appelle la double articulation. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de double articulation-là? C'est essentiellement l'utilisation de voyelles et de consonnes qui nous permettent de produire des phonèmes. Ces phonèmes-là qui n'ont aucune signification. « Ma », par exemple, « de », « bi », ça n'a pas vraiment de signification, mais lorsque je les combine en unités lexicales que sont des mots, donc « maman »,« maman s'est levée », là, ça prend une signification, puis on peut aller plus loin, évidemment, en combinant ça en phrases. Donc, l'idée ici, c'était de dire, OK, mais quelle est l'origine de tout ça? On recule au fait de vouloir exprimer des émotions intenses comme la colère, la peine ou la douleur. Et on sait que ces émotions-là, à la base, viennent de vocalisations non verbales. Quand je suis très en colère, je vais faire « Et ça n'a absolument aucune information linguistique, right?
Oui, exact. Bon,
même chose si je pousse un cri ou si je ris. Il n'y a pas d'information linguistique là-dedans. Mais de là, de cette vocalisation non verbale, l'être humain aurait dérivé ce qu'on appelle l'interjection expressive qui, elle, a une composante linguistique. Alors de « Ah! » Là, je passe à « Ouch! » »« Aïe, aïe, donc! » Puis « aïe, donc, bip, je peux rajouter autre chose. » Donc là, certaines interjections peuvent être liées à des vocalisations ancestrales, puis on pense que c'est aussi relié à des réponses corporelles. On va y revenir tantôt, mais à la base, il y a une des hypothèses qui veut que le langage vient de la gestuelle. Donc, comme je mentionnais, des travaux récents en anthropologie, en archéologie, en génétique, en linguistique, suggèrent tous l'hypothèse d'une langue originelle commune, mais on n'a pas de preuves à proprement parler de ça. Alors, l'idée de cette recherche ici, c'est des linguistes, évidemment, là, qui se sont penchés sur la question, c'était de chercher des traits communs dans les interjections expressives pour voir si elles avaient une origine commune. Donc, on veut répondre à deux questions essentiellement. Comment le langage a évolué, puis vient-il d'une source commune? Donc, les interjections humaines, comme je le mentionnais, suivent des formes acoustiques qui sont prévisibles. Puis ils vont suivre une fonction précise. Alors, si je pousse un cri de douleur, quelle est l'intention derrière mon cri de douleur? Bien, classiquement, je veux attirer l'attention des autres. Donc, classiquement, mon cri de douleur va être aigu. Mm-hmm. Il va être fort, il va être acoustiquement surprenant. Hein, moi, je cherche de l'aide quand je fais ça. Il y a des décennies, il y a un chercheur qui s'appelle Ruala qui a prédit que dans la communication animale et humaine, il y a des vocalisations qui vont être stéréotypées, comme la vocalisation agressive, qui va principalement se concentrer sur la voyelle O. Hein, quand on présente un faciès agressif, on va utiliser la voyelle O principalement, alors que quand on va plutôt présenter une attitude soumissive, là, on va tirer les lèvres vers l'arrière, ça va s'apparenter à un sourire, puis ça va être associé à l'utilisation de la voyelle I. Et ça, ce serait commun à toutes les cultures. Donc, ces gestes articulatoires-là, ça évoque des modèles de voyelles qui sont spécifiques, mais qui sont surtout relativement simples. Hein? C'est produit avec une manipulation limitée du tractus vocal puis des mouvements articulatoires. L'idée étant que, rapidement, je veux soumettre une émotion puis la communiquer de manière efficace. Alors, le groupe de recherche ici s'est intéressé plutôt aux voyelles. On va voir tantôt à la voyelle A. Et ils ont étudié essentiellement trois émotions. Les trois émotions étant la douleur, la joie et le dégoût. Donc, l'idée, c'est de se questionner à savoir comment le langage s'est développé. Puis la première question qu'on a posée, c'est comment le langage s'est développé. Puis là, il y a toutes sortes d'hypothèses. Hein. La première hypothèse la plus classique est évidemment en lien avec le phénomène de socialisation. Donc, le langage se serait développé pour communiquer des intentions précises au groupe. Les capacités cognitives en expansion chez les êtres humains ou les grands singes auraient permis de développer ces capacités-là. L'autre point essentiel dans le comment du développement du langage, c'est qu'on dit que la parole et la vocalisation ont évolué à partir de manifestations gestuelles. Puis ça, c'est intéressant parce qu'il y a des substrats physiologiques qui supportent cette idée-là. La première, c'est que les ondes cérébrales... Le premier substrat physiologique, pardon, c'est que les ondes cérébrales qui contrôlent la production et le traitement du langage, donc le contrôle de la main dominante et le visage, sont proches et interconnectés dans le cerveau humain. De même, la latéralisation entre le langage et la préférence manuelle, donc si vous êtes droitière, Pénélope, votre langage va être généré dans une région gauche du lobe frontal et... Tout près de cette région-là, bien, les neurones qui contrôlent votre main dominante, votre main droite, vont s'y retrouver aussi. Puis il y a une interconnexion assez majeure entre les deux. Et de fait, quand on parle avec le langage des signes, ce sont les mêmes aires qui sont activées, que ce soit pour le langage des sourds-muets ou communiquer à peu près n'importe quel autre signe, c'est les aires du langage qui sont activées. On utilise, en tout cas, moi, je l'utilise beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais on utilise beaucoup ses mains lorsqu'on parle. Mm-hmm. Moi, je gesticule bien trop, des fois, j'ai l'air d'un clown. Mais les gens vont souvent bouger beaucoup leurs mains en parlant. Et de fait, les jeunes enfants, lorsqu'ils commencent à développer un vocabulaire, vont pointer du doigt et vont utiliser leurs doigts pour essayer de communiquer. Donc ça, ce sont les substrats physiologiques qui supportent une association entre la gestuelle et l'origine du langage. L'autre chose, c'est qu'on pense qu'il y a un bioprogramme linguistique qui serait commun à tous les êtres humains, qui définirait une carte grammaticale qui serait innée. On aurait tout le monde une composante génétique qui aurait permis l'émergence d'une région dans notre cerveau qui ne demanderait qu'à être imprégnée par les substrats d'un langage, peu importe où on se développe, peu importe la culture ou le langage auquel on est exposé. Et ça, c'est associé directement à l'augmentation dans la masse du cerveau et au développement de certaines régions dans le cerveau qui sont classiquement associées au langage. On a trouvé un gène dominant qu'on appelle le gène FOXP229 qui est associé au langage. Ce n'est pas le seul, hein? Faut pas penser évidemment que tout est simple comme ça et qu'un seul gène explique le langage. Mais lorsque ce gène-là est défectueux, les gens ont clairement un déficit de langage assez majeur. Puis la quatrième et dernier point que je voulais mentionner sur le comment ou l'origine du langage, bien, il y a des experts qui pensent qu'il est possible que la capacité grammaticale des humains ait évolué depuis des comportements non sémantiques comme le chant. Et là, on prend l'exemple des oiseaux. On sait que le chant des oiseaux est un mode de communication entre les oiseaux, mais chaque unité, j'allais dire lexicale, c'est pas vraiment lexicale, mais chaque son, si vous voulez, lorsque pris isolément, n'a absolument aucune valeur de communication. C'est l'ensemble du chant, la prosodie ou la mélodie du chant qui va donner une intention. Mais là, on pense que les hominidés primitifs ont peut-être développé des capacités à but non sémantique similaires. Puis ça se serait graduellement transformé en langage symbolique. Ça, c'était le comment. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi avoir développé le langage? Bien, là, je vous fais part, dans l'intérêt du temps, de seulement deux hypothèses. La première, elle est évidente. On l'a déjà évoqué dans le comment. Donc, le besoin de socialisation. Hein? Dans les groupes d'hominidés, à un moment donné, il y a une forme de spécialisation qui est apparue. La communication devenait fort utile dans l'échange et le troc. Puis le langage se serait développé pour permettre la socialisation. Puis, si on recule encore plus loin dans les origines du langage, il y a une deuxième théorie que je trouve absolument fascinante qu'on appelle la théorie du bébé à terre de Dean Falk. Donc, Dean Falk, c'est un chercheur anthropologue qui a pondu cette théorie-là à l'effet que, fondamentalement, les premières mères humaines, contrairement à leurs homologues chez les autres primates, ne pouvaient pas se déplacer et se nourrir avec leur nourrisson accroché à leur dos. La perte de fourrure avait laissé le nourrisson sans aucun moyen de s'accrocher, donc elle devait déposer le nourrisson au sol. En conséquence, lorsqu'elle s'éloignait, bien évidemment, les enfants devaient être rassurés. Puis les mères auraient répondu aux pleurs des bébés en développant un genre de système de communication qui était initialement organisé sur de la gestuelle, des expressions faciales, et qui, par la suite, a présenté graduellement nos fameuses interjections émotives. Donc, de retour à notre étude, la question étant... Est-ce qu'on peut prédire que la forme des interjections à travers les langues du monde peuvent avoir des similitudes acoustiques avec les vocalisations non linguistiques utilisé pour exprimer les mêmes états émotionnels. Je reviens à vous, Pénélope, qui vous cognez l'orteil. Hein? Là, vous dites « Ah! » À la base, on pense que la lettre, la voyelle A était à l'origine du mode de communication d'une douleur. Et là, on a graduellement raffiné ça en « ouch, aïe, aïe, aïe ». Et là, il y a évidemment différentes modifications selon les langages considérés. La plupart des langues parlées sans mettre à disposition une interjection de douleur qui a comme noyau et pic une voyelle centrale non arrondie ouverte comme le A. Donc, les auteurs se sont intéressés à comparer 131 langages, plus de 600 interjections. Et comme je le mentionnais, ils ont cherché d'abord à étudier la douleur. Par la suite, ils ont étudié la joie, puis le dégoût. Et là, une mise au point qui est vraiment importante, et d'ailleurs...
Ça dit quoi si toutes ces émotions-là sont toujours exprimées par « Ah! »
Bien, ça dit qu'il y a un point commun à la base. «
Ah, je suis joyeuse! » Puis « Ah, c'est dégoûtant! » Puis « Ah, ça fait mal! »
Bien là, Pénélope, vous venez de modifier votre prosodie ou la mélodie avec laquelle vous avez prononcé la voyelle. Et ça, c'est justement une des mises au point majeures de l'étude. Cela n'a pas été pris en compte. Mm. Ils n'ont pas pris ça en compte.
Ah, là, la surprise!
Ouais. Ah, c'est bol. Tout à fait, ils n'ont pas pris ça en compte pour plusieurs raisons, mais d'abord, ils ne voulaient pas contaminer leurs données en fonction des cultures. Hein. On voulait vraiment reculer à l'origine des langages. Donc, le « ah » s'est transformé en « ouch » en « aïe ». Lorsqu'on regarde nos 131 cultures et nos 600 interjections, on trouve effectivement un champ commun. Il y a, selon les auteurs, une commune mesure. Tout ça viendrait de ces expressions-là qui étaient initialement non linguistiques, qui sont par la suite raffinées, puis auraient divergé à travers ces 7000 dialectes-là qui occupent toute la planète. Par contre, la même chose n'a pas été démontrée pour la joie et le dégoût. Et c'est là que votre commentaire devient vraiment intéressant, parce que justement, lorsqu'on exclut la prosodie et l'intensité avec laquelle on prononce la voyelle en question, bien, on perd certaines informations. Ces informations-là seraient extrêmement importantes dans l'étude des émotions que sont la joie et le dégoût. Le dégoût, bien, c'est souvent guttural, c'est quelque chose qui est associé à un bâillement. En anglais, on dit un gag reflex. Mais le mouvement initiateur, si on était, par exemple, pour vomir, donc ça, c'est le A. Et la prosodie et l'intensité sont drôlement importants lorsqu'on exprime le dégoût, de même que la connotation culturelle. Parce que dans certaines cultures, il y a des odeurs qui vont être déplaisantes, alors que pour d'autres cultures, ça ne sera pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle les auteurs n'ont pas, selon eux, du moins selon leur analyse, retrouvé cette commune mesure-là pour le dégoût, de même que pour la joie.
Okay.
Donc, cette association-là ne semblait tenir que pour la douleur, essentiellement.
Nathalie nous écrit « Super intéressant, ça me fait penser au geste de secouer la main que font les Français quand ils disent « Oh là là! »
Ouais, »
Elle dit « Je suis française moi-même. » Elle peut se permettre de le faire parce qu'elle est française.
Oui, alors du coup, elle a raison.
OK, en terminant?
En terminant, on pense que c'est une piste qui va permettre de continuer. En fait, on veut dégager d'autres émotions. Donc, l'idée derrière ça, ils ont identifié 5 ou 6 autres émotions. Ils vont faire le même travail de moine, c'est-à-dire aller scruter. On était à 131 langages ici. On a dit tantôt qu'il y avait 7000 dialectes autour de la planète. On aimerait augmenter ça à 200-300. On veut scruter d'autres émotions. Et on pense que si les travaux se confirment, on va avoir les preuves absolues que tous les dialectes sur la planète découlent d'une seule et même langue commune, ce qui serait une trouvaille fascinante.
Oui, absolument. Docteur David de Fortin, je rappelle, vous êtes neurochirurgien, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup.
Plaisir.
Écrivez-nous pénélope@radio-canada.ca.